Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment se faire des amis à l'âge adulte? Un texte de Florence Dancause, paru le 6 octobre 2024 dans la presse. C'est une question que beaucoup se posent une fois adulte. Le cercle social se rétrécit et peut donner un sentiment de solitude qui est commun. Comment s'y prend-on pour nouer de nouvelles amitiés? Truc simple et astuce pratique pour personnes timides ou avides de nouvelles rencontres. Définir nos intentions. Que veut-on d'une nouvelle amitié? Une relation profonde et intime ou simplement un partenaire de marche? Même si on a un bon cercle social, on peut avoir l'impression qu'un de nos besoins en amitié n'est pas comblé, rappelle Jannick Coutu, psychologue et animatrice de l'émission Balado Dose de psy. On doit aussi se questionner sur le temps qu'on est prêt à consacrer à cette relation. De quel type de personne veut-on se rapprocher? Habituellement, on se connaît bien et on peut identifier nos valeurs, nos limites et les qualités qu'on recherche. Ça signifie souvent que moins de gens vont correspondre à nos critères, indique la docteure Coutu, mais le choix sera plus éclairé. Par contre, il faut rester ouvert aux possibilités, dit la psychologue Sylvie Boucher. On peut ainsi se laisser surprendre par des connexions inattendues. Oser les sujets superficiels. Il faut vraiment accepter de faire au début du small talk, concède la docteure Boucher. Même si on aborde parler de la pluie et du beau temps, il reste que c'est un bon moyen d'aborder les gens, explique-t-elle. C'est le premier pas vers le début d'une relation. On peut aussi poser des questions et s'intéresser à l'autre, suggère la psychologue, et on évite de raconter toute sa vie. Ça devient personnel avec le temps, dit-elle. Une autre façon d'entrer en contact avec quelqu'un est de demander ou d'offrir de l'aide. On ne doit pas sous-estimer les relations avec des gens qui sont des connaissances, affirme Jannick Coutu. Toutes les relations ont une importance dans notre bonheur. On peut ainsi bénéficier du fait de causer de sujets plus légers avec des collègues de travail, par exemple. Provoquer les occasions. S'inscrire à un loisir qui nous intéresse est judicieux. On a plus de chances de rencontrer des personnes avec qui on a des intérêts communs. On s'entend bien avec un collègue de travail? Pourquoi ne pas proposer d'aller boire un café ou de dîner en tête-à-tête? On regarde aussi du côté des amis de nos amis. Normalement, on devrait avoir des points communs et des valeurs communes avec eux, explique Sylvie Boucher. Il faut aussi oser parler ouvertement de notre désir de rencontrer de nouvelles personnes, même si c'est vulnérabilisant, conseille Jannick Coutu. Les gens ont parfois honte de le dire, mais si on osait un peu plus, ça nous donnerait des occasions de rencontre. Apprivoiser le risque. Le fait de provoquer les choses, ça amène une part de risque, souligne Jannick Coutu. Le risque de se faire dire non. La personne peut considérer qu'elle n'a pas de place dans sa vie pour un autre ami, par exemple. On doit travailler sur notre perception du refus et prendre un pas de recul, suggère la psychologue. On doit aussi garder confiance en notre capacité à nouer de nouvelles relations. Comment l'a-t-on fait dans le passé? En y réfléchissant, on peut trouver ses propres trucs et astuces, conseille Sylvie Boucher. Parfois, ça ne fonctionne juste pas, concède-t-elle. On ne lâche pas et on continue à socialiser. L'angoisse, ou même l'anxiété, monte à l'idée de prendre ce risque. On peut aller consulter. On a peut-être été profondément blessé dans d'autres relations d'amitié, indique Jannick Coutu. On peut chercher de l'aide pour travailler là-dessus et ne pas reproduire les mêmes patterns. Les nouvelles amitiés nécessaires. Se faire de nouveaux amis n'est pas un besoin pour nous, ou on considère la démarche comme épuisante? On sous-estime souvent l'effet positif que ça peut avoir d'entrer en contact avec l'autre, rappelle Yannick Coutu. Depuis la pandémie, de nombreuses personnes sont devenues paresseuses pour s'investir dans une nouvelle relation, dit-elle. On a besoin d'avoir des interactions, on a besoin d'avoir des relations sociales et on a besoin de savoir qu'on a du soutien, explique Sylvie Boucher. On n'hésite donc pas à entrer en contact avec les gens et qui sait, se faire un nouvel ami. En savoir plus. Source, sondage populationnel de l'INSPQ, décembre 2023. 28%, c'est la proportion des adultes québécois qui se sentent isolés parfois ou souvent. C'était « Comment se faire des amis à l'âge adulte », un texte de Florence Dancause paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.
Les prédictions sur l'IA sont toutes fausses, surtout les vôtres. Un texte d'Alain McKenna paru le 30 septembre 2024 dans La Presse. C'est la prochaine bombe nucléaire. Elle volera nos emplois. Elle menace la démocratie et la vie privée. Elle fera s'écrouler la finance. Ou alors, elle nous rendra surhumains. Elle guérira le cancer. Elle rendra tout le monde plus riche. Toutes ces prédictions ont été faites à propos de l'intelligence artificielle. Qui dit vrai? Probablement personne. Comme la plupart des exclamations dithyrambiques ou catastrophiques portant sur une nouvelle technologie. Le nucléaire n'a pas donné naissance à la société de l'hydrogène et n'a pas non plus provoqué la destruction mutuelle assurée des surpuissances planétaires. Les crypto-monnaies n'ont pas fait tomber le système bancaire mondial et n'ont pas ruiné tous leurs plus fervents adeptes. Ces scénarios extrêmes posent problème lorsqu'ils déforment notre perception de la réalité. Par exemple, même en sachant qu'ils ont trois fois moins de risques d'avoir un accident à bord d'une voiture autonome, quatre fois moins de risques de se blesser et 20 fois moins de risques d'être à l'origine d'un accident, les deux tiers de la population refuseraient d'embarquer dans un taxi autonome si l'occasion se présentait à eux. Pourquoi? On redoute le scénario du pire. La voiture autonome, une forme d'intelligence artificielle, IA, n'est pas parfaite. Mais elle rend les accidents moins probables. On se trompe souvent à anticiper des scénarios extrêmes. Les experts aussi. Peut-être plus que les autres. Comment prédire l'avenir? Beaucoup d'experts essaient, mais au fil du temps, on voit qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Pourquoi? Ils ont tendance à exagérer les extrêmes, autant les risques que les bénéfices. C'est Hugo La Rochelle qui le dit. Il ne tombe pas des nues. C'est un des plus grands spécialistes en IA au Canada. Il est professeur associé à l'Université de Montréal et est titulaire d'une chaire en IA de l'Institut canadien de recherche avancée, CIFAR. Il est aussi chercheur pour Google DeepMind et associé au MILA, l'Institut montréalais de recherche en IA. Outre les chiffres et les algorithmes, Hugo La Rochelle affectionne aussi la lecture. Son affirmation sur les experts qui font des prédictions erronées, il l'emprunte à Philip E. Tetlock et à Dan Gardner. Les deux auteurs ont publié en 2015 un livre intitulé Super Forecaster. The Art and Science of Prediction, qui fait le compte rendu d'un projet de recherche créé en 2011 par trois professeurs de l'Université de Pennsylvanie, dont Philip E. Tetlock lui-même, appelé le Good Judgment Project. Ce projet a, pour ainsi dire, prouvé, à l'aide d'outils scientifiques, que la sagesse des foules était souvent supérieure à celle des experts. Ou, en tout cas, qu'un groupe de gens qui ne sont pas nécessairement de fins connaisseurs sur un sujet très précis pouvaient, la plupart du temps, faire de meilleures prédictions que les experts du sujet en question. C'est un peu ce qu'on voit actuellement dans l'intelligence artificielle. Des experts ont des points de vue extrêmes qui s'opposent, et comme ce sont des experts, ils ont ensuite du mal à changer d'avis et à s'accorder entre eux, dit Hugo La Rochelle. Panacée ou apocalypse? En 2023, une lettre ouverte a été publiée demandant une pause dans le développement par les géants de la technologie de certaines formes d'intelligence artificielle. Cette lettre était signée par plus d'un millier d'experts en technologie de tous les horizons, y compris le grand patron de Tesla, Elon Musk, et le chercheur montréalais, Joshua Bengio. L'émergence rapide, soudaine et hors de contrôle de technologies comme l'IA générative qui anime ChatGPT, d'OpenAI, représente un risque profond pour la société et l'humanité, ont-ils averti. Ils ont comparé le risque de l'IA à celui du nucléaire ou d'une pandémie et redoutaient son impact sur tous les plans. Dans le contexte de la campagne présidentielle aux États-Unis, certains s'attendaient à voir surgir une avalanche de vidéos truquées et de faussetés générées par cette IA au profit d'États opposés à l'oncle Sam. Dans la foulée, la société financière Goldman Sachs a annoncé que, selon elle, 300 millions d'emplois et un pourcentage non négligeable du PIB mondial étaient menacés par l'IA. En 2024, les scénarios catastrophes n'ont pas eu lieu. On n'a toujours pas guéri le cancer. Mais l'IA entraîne des changements dans le quotidien de millions de travailleurs en santé, en finance et ailleurs. Des photos truquées de Donald Trump et de Kamala Harris circulent sur les réseaux sociaux. C'est à prendre au sérieux, mais ce n'est pas l'hécatombe annoncée. Vu dans son ensemble, l'IA semble être une énorme entité aux mécanismes très opaques et qui va tout renverser sur son passage. La réalité est qu'elle est peut-être moins grosse que ça, dit Hugo La Rochelle. C'est plus facile de comprendre l'IA en la voyant comme un paquet de nouveaux outils, illustre-t-il. Par exemple, les IA génératives ne sont pas des entités intelligentes. Elles créent des contenus simulés. En obligeant ces IA à signer leur création, on saura quelles vidéos et quelles photos sont des trucages, explique M. La Rochelle. Et nous avons déjà des lois et des règles pour plein d'autres applications d'IA pour nous protéger des risques. Autrement dit, en la prenant une cuillerée à la fois, la montagne a soudainement l'air moins grosse et les prédictions extrémistes semblent tout à coup plus loufoques qu'autre chose. C'était « Les prédictions sur l'IA sont toutes fausses, surtout les vôtres. » Un texte d'Alain McKenna paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
L'état des bibliothèques québécoises reste préoccupant. Un texte d'Alex Fontaine paru le 22 octobre 2024 dans Le Devoir. L'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ, et le réseau Biblio ont dévoilé le portrait national 2024 des bibliothèques publiques québécoises. Et il est sombre, notamment en raison des besoins criants en matière de main-d'œuvre. Cet état des lieux est préoccupant, affirme la directrice générale de l'ABPQ, Ève Lagacé. Les ressources humaines, qui sont intimement liées aux heures d'ouverture, c'est là où il y a le plus de travail à faire. Et avant même de tenter de recruter davantage, il y a un manque d'informations à combler, ajoute-t-elle. Pour l'instant, les données disponibles sont très succinctes, explique Mme Lagacé. Elle se résume essentiellement au nombre d'employés dans les bibliothèques des différentes villes, ce qui est nettement insuffisant pour la planification de l'offre de formation et du remplacement des départs à la retraite. Si on ne veut pas que la situation soit encore pire dans le futur, il faut qu'on soit en mesure d'établir un diagnostic plus détaillé à son avis. Les acquisitions de livres imprimés, qui étaient un point fort des bibliothèques québécoises en 2022, déçoivent en 2023 l'année qu'examine le rapport. Ça correspond au retour qu'on a eu des collègues qui nous disent que les municipalités réduisaient les investissements, dit la DG de l'ABPQ. À peine la note de passage. Les bibliothèques de la province obtiennent une note de 66%, en hausse de 2 points par rapport à 2023. Si on le compare avec un bulletin scolaire, on a à peine la note de passage, soutient Mme Lagacé. La région de Montréal se démarque avantageusement avec 94%, une excellente note, selon le barème utilisé dans le document. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ferme la marche avec une note de 50%. Le bulletin évalue les régions administratives du Québec en fonction de 5 indicateurs. Les acquisitions, les heures d'ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines. Les cibles pour les différents indicateurs ont été établies à partir des lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec, un document préparé par différents acteurs du milieu qui se base entre autres sur les normes à travers le monde. Voici un survol des résultats. Les acquisitions, mesurées par le nombre de livres imprimés obtenus durant l'année, s'élèvent à 1 257 723 ouvrages en 2023, ce qui vaut une note de 64% à la province dans son ensemble. Ce résultat est inférieur de 20 points à celui de 2022. Il aurait fallu acheter 770 541 livres de plus afin d'atteindre la cible. Les ouvrages numériques et audiovisuels ne sont pas comptabilisés pour des raisons méthodologiques, mais ne représentent qu'environ 4% des collections, précise Mme Lagacé. Les heures d'ouverture se méritent une note pan-québécoise de 52%, en baisse de 2 points sur un an. Le calcul tient compte du nombre total d'heures d'ouverture par semaine et du nombre de points de service. Les bibliothèques du Québec, dans leur ensemble, ont été ouvertes 18 297 heures par semaine, soit 8 284 heures sous la cible. Laval et le nord du Québec obtiennent une note parfaite. Montréal suit de peu avec un résultat de 97%. Il était beaucoup plus difficile d'accéder aux établissements dans Chaudière-Appalaches et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se retrouvent au pied du palmarès. La superficie des bibliothèques a vu sa note pan-québécoise passer de 66% en 2022 à 67% en 2023 pour s'établir à 398 917 mètres carrés. Au Québec, en 2023, il manquait 171 93 mètres carrés dans les bibliothèques publiques pour atteindre le niveau d'excellence afin de garantir l'espace nécessaire pour loger les collections, avoir assez de place assise et permettre une circulation fluide des citoyennes et des citoyens lors de leur visite, indique le rapport. Les places assises, qui s'élèvent à 36 750 au Québec, 14 014 places sous la cible, récoltent une note d'ensemble de 81% en hausse de 3 points. Il s'agit de l'indicateur le mieux noté de l'enquête. De quoi contribuer à l'objectif de faire de la bibliothèque un endroit social, un troisième lieu qui permet aux citoyennes et citoyens de se retrouver afin d'échanger et de tisser des liens. À ce chapitre, Laval fait toujours piètre figure, avec une note de 34% et un total de 907 places. Les ressources humaines, c'est là où le bât blesse. L'étude s'est basée sur le nombre d'employés équivalent temps complet pour décerner une note de 29% à la province, en baisse d'un point de 2022 à 2023. Si on ne regarde que les postes de bibliothécaires, la note pan-provinciale n'est que de 10%. Il faudrait plus que doubler leur nombre pour atteindre le niveau excellent. Un milieu loin d'être ennuyeux. L'ABPQ dévoilera à la fin novembre 2024 un plan de développement afin d'expliquer ce qu'on devrait faire pour la suite des choses, affirme la directrice générale de l'organisme. Ces gestes à poser devraient inclure un diagnostic détaillé des besoins en ressources humaines, une campagne de promotion, mais aussi un acte de présence dans les salons de l'emploi pour mieux faire connaître les métiers en bibliothèque. On veut changer la vision du travail en bibliothèque, qui est souvent dépeinte comme un lieu de travail un peu ennuyant où on a un chignon, des lunettes et on fait « chut » toute la journée, alors que ce n'est pas le cas, dit-elle. Les bibliothèques contribuent au développement des citoyens et des municipalités, sont très dynamiques et loin d'être ennuyeuses, soutient Mme Lagacé. On comptait 1033 bibliothèques publiques au Québec en 2022. Près de 97% des Québécois ont accès à une bibliothèque publique dans leur municipalité. Les quelques 3% restants vivent dans l'une des 192 municipalités de la province qui ne proposent pas un tel service. C'était « L'état des bibliothèques québécoises reste préoccupant ». Un texte d'Alex Fontaine paru le 22 octobre 2024 dans Le Devoir.
Lire dans les pensées. Possibilité ou science-fiction? Un texte de Mathieu Perrault paru le 6 octobre 2024 dans La Presse. Pourra-t-on un jour lire dans les pensées d'étrangers? Demande Jean Pellerin, un lecteur. Ce n'est pas pour demain. Même si la science fait des progrès dans ce domaine, lire les pensées d'étrangers relève pour l'instant de la science-fiction, selon un chercheur montréalais. À l'heure actuelle, un algorithme peut lire dans les pensées d'une personne de manière assez limitée. Avec une électrode implantée dans le cerveau, cet algorithme peut lire une lettre à la fois avec un taux d'erreur de seulement 3%, explique Blake Richards du neuro de l'Université McGill. Avec un appareil externe, situé dans un casque, l'algorithme peut seulement déplacer un curseur sur un clavier ou un écran. Ces expériences ont été faites avec des patients ayant des troubles moteurs, les empêchant de parler et de manipuler un clavier. C'est tout à fait possible d'imaginer qu'il y aura des solutions cliniques de ce genre dans la prochaine décennie, dit le neuroscientifique. L'électrode implantée dans le cerveau est beaucoup plus performante qu'un décodeur externe, par exemple un casque, pour lire l'activité des neurones du cerveau. Mais au bout de quelques années, parfois quelques mois, l'électrode provoque de l'inflammation qui brouille les lectures. L'algorithme, ayant un taux d'erreur de 3 % a été mis au point dans le groupe de M. Richard. L'an dernier, dans la revue scientifique Nature, des chercheurs de l'Université Stanford, en Californie, ont dévoilé un algorithme qui, au moyen d'électrodes implantées dans le cerveau, permet à des patients ayant des troubles de la parole de parler à la moitié de la vitesse d'une personne normale. Le tout avec un taux d'erreur de 25 %. Autre limitation. L'algorithme doit être entraîné pour chaque patient. On ne peut pas lire les pensées des inconnus, souligne Blake Richards. La durée de l'entraînement d'un algorithme pour lire les pensées d'un individu peut être réduite si l'algorithme a déjà été entraîné pour d'autres individus de la même espèce, avance une autre étude de M. Richard faite sur des singes. Oreillette. Les décodeurs externes pourront éventuellement prendre la forme d'oreillette selon M. Richard. Mais plus encore, est-ce qu'on pourra un jour lire les pensées à distance sans qu'un décodeur soit impliqué? M. Richard parle encore de science-fiction. Toutes les méthodes non-invasives de lecture du cerveau implique un décodeur porté par la personne. Est-ce qu'un pays totalitaire ou une firme enfreignant les lois de protection de la vie privée pourrait se servir d'oreillettes pour épier les pensées de Kidam et entraîner ainsi un algorithme à lire leurs pensées? En théorie, oui, répond M. Richard. Il y a aussi le risque que les bases de données soient piratées. Est-ce que cette technologie pourrait, dans un avenir lointain, permettre aux humains de lire les pensées des animaux? C'est une question philosophique, signale M. Richard. On pourrait arriver à savoir que le primate pense à la couleur jaune. Mais nous n'aurons pas de moyen de savoir si pour lui, le jaune représente la même chose que pour nous. À tout le moins, on pourrait mieux comprendre en quoi nos processus de pensée diffèrent de ceux des animaux. C'était « Lire dans les pensées, possibilités ou science-fiction », un texte de Mathieu Perrault, paru le 6 octobre 2024 dans La Presse.